bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin. Bravo. Tom Villa.
Bonjour.
Je ne vais pas parler, Daniel, tu fais la gueule. Frédéric Sigris.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau et notre invité Vincent Delay.
Bravo. Allez.
Bonjour.
Bonjour Vincent et bonjour et merci surtout parce que vous allez l'entendre dans l'état dans lequel il est. On s'attendait à recevoir un texto dimanche soir en disant « Je ne peux pas venir, j'en ai plus de voix ». Comment allez-vous Vincent ?
Jamais, c'est pas le genre de la boutique.
C'est gentil, ça va. Non mais la voix est un peu...
Il y a déjà eu moins bien, mais il y a déjà eu mieux.
Oui, alors, commencer l'émission en parlant de la voix de Vincent Delerm mais de sa puissance, ça reste...
Non, écoutez, reste
on est au top de la voix.
On est ravis de recevoir Arnaud ce matin sur France Inter.
Écoutez, je suis venu, soyez polis.
C'est ça. Et il est venu pour que nous parlions de ce nouvel album et d'un nouveau disque également. Enfin, pardon, nouveau film
et d'un nouvel album.
Voilà, ce sont les deux en même temps. Je voudrais juste savoir dans la chronologie, qu'est-ce qui a commencé le premier finalement ? C'est le film ou le disque ? J'ai le sentiment que c'est d'abord le film.
Et ouais, c'était la bonne réponse. Parce qu'en fait, on l'a même commencé avant l'album précédent, le film.
Ça prend autant de temps ?
Non, j'étais juste parti un peu de travers. Je voulais faire un film avec des témoignages qui seraient assez touchants et tout ça. Et en fait, je me disais que j'allais écrire tous les témoignages. Et ça n'a pas marché.
Si je peux me permettre, ils sont moins touchants s'ils sont écrits et s'ils sont pas.
Exactement.
Ah, mais les faux témoignages.
C'est pour ça.
c'est bien aussi.
Donc après, on a mélangé des choses qui étaient écrites avec des vraies rencontres et du coup, ça a ramené un peu de la vie là-dedans. Et ça manquait dans un premier temps. Ouais.
Et on est vraiment dans cette notion de panorama et de photo. Il y a l'exercice du cadre, de l'image, du noir et blanc, de la structure des cadres dans le film. C'est assez bluffant et impressionnant. Il y a surtout aussi, et là c'est culte à jamais malheureusement, la dernière scène de Jean Rochefort.
Ouais, c'était d'ailleurs la séquence qui a fait que le film, même dans la période où je me disais, ça cloche un peu, mais je me dis, il faut le finir, juste rien que pour ça, parce que Jean m'avait toujours dit, Vincent, il faut que vous fassiez votre film, c'est très important, et je pense que c'est un truc qu'il disait à tous les gens qu'il rencontrait qui faisaient pas de film. Mais moi, je l'ai pris vraiment,
pour vous?
Au premier degré.
Ouais. Ouais.
Et puis, du coup, le jour où j'ai fait ce film, je lui ai dit, Jean, voilà, je sais que vous avez mis un terme à votre carrière, il avait annoncé qu'il arrêtait. Il m'a dit oui, je suis vraiment trop fatigué. Puis après, il a rappelé pour dire j'aimerais bien faire cette dernière journée de tournage avec vous. Donc c'était une sorte de cadeau infini et il fallait prendre soin de ça, oui.
Alors pourquoi ? C'est marrant parce que ce que vous dites sur la notion d'avoir le sentiment que quelque chose est fait ou est n'édit par Jean Rochefort que pour soi, et en fait ça appartient à tout le monde, c'est exactement aussi un tout petit peu le concept de l'album. C'est de se dire, on a toujours le sentiment quand on voit un coucher de soleil qu'on est les seuls à jouer, à prendre une photo avec ses petits doigts, et comme si on tenait comme une bille le soleil couchant de l'autre côté. Or, tout le monde le fait en disant, ah, je suis génial, ça fonctionne extrêmement bien. C'est comme ce que vous dites aussi à Alain Souchon sur les grains de mimosa qui tombent autour du vase, une chanson d'Alain Souchon qui
s'appelle Lulu.
Ouais, qui vous touche particulièrement et qui est d'ailleurs elle est là d'ailleurs.
Je t'aime beaucoup, mais je t'aime pas. On le fait beaucoup, puis on le fait pas. Je te trompe beaucoup, mais je te trompe pas. L'amour, c'est quoi, Lulu? Qu'est-ce qui t'a plu? Beaucoup et puis plus.
Donc ce côté, je ne sais pas si c'est si ce que l'on vit, ces après-midi avec des histoires d'amour, ces regards particuliers, ces photos particulières que l'on fait aussi de ceux que l'on aime. Je ne sais pas si c'est que ma vie ou si c'est tout le monde. Ça aussi, c'est une tournure d'esprit particulière.
Ah oui, c'est le ressort de tout, hein, de toutes les chansons, de se dire toujours on va piocher dans une zone qui appartient à soi au départ. Et dans le film, c'est assez net parce que justement, j'ai voulu faire ça à travers d'autres gens que moi, les faire parler d'un truc dont ils peuvent se dire, franchement, ça c'est un truc qui n'intéresse que moi et puis en espérant évidemment qu'à chaque fois ça trouve un écho chez les autres.
Ouais, c'est ça marche. Réussir à convoquer l'intime, je pense par exemple à la séquence avec Vincent De Dienne, où il raconte ses premières histoires d'amour et son attente qu'éventuellement elle veuille bien être amoureuse de lui. C'était avec la jeune Paula, je crois.
Ouais. Qui a failli être amoureuse de lui.
Mais voilà, juste la formulation.
Et ça s'écrit, elle ça s'écrit Paola.
Ouais, Paola. Oh là là, elle dit Paula. Paula. Il faut
c'est
dire bosser Paula.
Cette émission.
Ouais, faut dire Paula.
Bah non, avec plaisir.
Et ça, c'est convoquer en effet un souvenir, parce que ce film, c'est aussi ça, c'est une sorte de mosaïque gigantesque, ouais, de souvenirs, de points comme ça qui nous entraînent d'une histoire à l'autre, et convoquer cet intime-là et se dire, ah, finalement, moi aussi, ça me rappelle peut-être un petit moment où j'ai espéré qu'un tel soit amoureux de moi, et finalement, on s'y reconnaît tous.
Ouais, ouais, c'est super parce que c'est vraiment évidemment ce qu'on espère quand on va sur ce terrain-là et que les gens vous disent ah moi j'ai vécu ça exactement mais alors, c'était pas à Limoges, c'était à tel endroit et voilà et décaler les choses un peu comme ça.
Alors on va tout de suite faire d'abord avant de reparler de l'album d'en écouter différents extraits de parler du film des questions concernant Vincent Delerme. Qu'est-ce que Vincent est capable de détecter dès qu'il rencontre quelqu'un?
Le mensonge.
Non.
La haine. S'il a pris une douche.
S'il se lave.
Non. Les escrocs.
Non.
S'il est adultère.
Non.
Non. Son signe du zodiaque.
Alors je vais vous aider. Je.
S'il le connaît, s'il aime sa musique, s'il
il
est sincère.
Il va nous aider.
Je vais vous aider.
Parfois il dit je t'aide mais.
Est-ce qu'il a été circoncis? Moi je l'ai appelé sur le périph, j'étais en panne, il m'a dit je t'aide.
C'est pas ça, mais il va donner des
jamais de la vie, je traverserai le monde pour t'aider, Tom.
Ah bon?
Non, là, je demanderai à Vincent s'il avait détecté avec moi.
Que t'étais arabe?
J'aime bien le petit silence qui a précédé la vanne, qui était je la fais ou je la fais pas.
Surtout, je vous remercie d'avoir ri de bon cœur.
Si t'es droitier, c'est quoi? Si t'es droitier gaucher, si tu.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut déterminer en regardant quelqu'un?
Ouais.
S'il est chanteur,
s'il aime bien la chanson.
Il rencontre quelqu'un.
S'il connaît la musique.
S'il aime sa musique.
Mais c'est pas vous qui devez raconter. Okay. Ouais. Il est capable de détecter.
S'il est végétarien ou non?
Non.
S'il est en bonne santé?
Non. C'est quelque chose qui est plus.
S'il est parent ou pas?
Alors?
Il a des enfants?
Non, mais c'est un rapport.
S'il a une âme d'enfant, s'il aime jouer,
s'il essaie d'en faire, c'est ça?
Non, non, non.
S'il a encore ses parents?
C'est un rapport avec ses parents, oui.
S'il aime ses
s'il
parents.
S'il les aime.
Non. S'il a tué ses parents.
Non.
Ses parents.
Si ses parents l'ont reconnu. Non.
S'il a été aimé enfant.
Il est capable de savoir si ses parents.
Si c'est ligonesse ou pas.
Ouais, ça nous aurait aimé ce week-end.
Si tout le monde est ligonesse.
Ouais.
Si ses parents s'aimaient.
Alors, non.
Si c'est un enfant de l'amour.
Si c'est un enfant.
De divorcer.
Désiré. Un enfant
non.
De la danse.
Désiré. Non.
Divorcé.
Non. Non, ah ils ont pas trouvé.
Bah s'il y a
c'est un enfant unique ou non.
Un papa, une maman.
Unique ou non.
Un papa, si il est... une maman.
C'est ça. Si il est...
si il est une fratrie.
C'est un enfant unique.
Non, s'il est fils de prof.
Ah ouais.
Des fois on dit des conneries aussi. Hein.
Vous... Souvent. Mais
non mais oui, il y a un petit truc de temps en temps.
Vous dites je me sens fils de prof et je suis capable de reconnaître un fils de prof.
Ouais, c'est pas systématique mais oui, des fois il y a un petit truc dans l'air.
Et à quoi on le sent?
Bah je sais, c'est difficile à dire, c'est un truc un peu comme ça. Non, je saurais pas trop dire parce que regardez Nagui, il est très différent de moi.
Vous vous rendiez absolument pas compte que j'étais fils de prof quand on s'est rencontrés.
Si, assez vite vous m'en avez parlé, je crois aussi.
Dites-moi s'il vous plaît, pourquoi enfant ne pouvait il pas voir la télévision où il ne pouvait la voir que 3 semaines par an.
Il n'avait pas à la maison. Il n'avait que chez
le voisin.
Alors, il n'y en avait pas à la maison, mais chez pourquoi c'est seulement 3 semaines? Non.
Non. Est-ce que c'est la période de vacances?
Non.
On pouvait la louer?
C'était exactement.
Ah, la location télé.
C'était unique,
le Tour de France.
Uniquement loué pour, en tout cas, des rendez-vous sportifs.
Ouais. Et pour me mettre à flot, en fait, vis-à-vis de mes potes. Non, il disait c'est pour pas que tu sois largué dans la cour. Voilà, pendant 3 semaines tu regardes tout et après t'es peinard.
Ça se fait plus maintenant?
Ok, non. Stagiaire d'accord. Au Monde, que lui est-il arrivé lors d'une interview qu'il a faite de Miossec?
Il a pensé que c'était quelqu'un d'autre.
Il savait pas que c'était Miossec. Ouais.
Il s'est endormi.
Non.
Il a appelé autrement. Il a pas rendu le papier. Il a perdu ses notes, ses fichiers. Il a mal enregistré.
Exactement.
Ah ouais, ça c'est l'horreur. Ah ça c'est l'enfer, ça.
Pas de son sur le magnéto.
Oh là là, c'est l'enfer, ça.
Ouais, après j'ai rappelé le journal, j'ai dit oh, franchement il a pas dit grand chose.
avec le sexe ça peut passer. Hein.
Ouais, hein. Il vaudrait mieux faire un papier de fond et du coup je sais ce que j'ai fait. C'était pas une interview, c'était un grand papier. Donc.
Ouais. Et vous l'avez avoué à Miossec ou jamais?
Ah oui, ouais, lui je lui ai dit ouais. Par contre au Monde j'ai toujours pas dit.
Bon,
on les embrasse.
Non, ils écoutent pas. Pourquoi Vincent Delerme s'est-il beaucoup promené rue Robert-Estienne quand il est arrivé à Paris?
Parce que c'est là qu'il habitait.
Non.
Parce qu'il y avait une actrice ou une chanteuse qui voulait rencontrer.
C'est lié à un chanteur.
C'est lié en tout cas
à Barbara, de théâtre,
au cinéma. Barbara, non.
Il y a une scène de cinéma culte qui s'est passée là-bas, donc.
Non.
C'est l'adresse de quelqu'un de connu.
Qu'est-ce qu'il
aime ? Oui, une actrice. Catherine Deneuve.
Non.
Souchon, non. Il est passé par là, Souchon.
On le retrouve. Non, c'est cinéma.
Duras.
On retrouve l'image avec d'ailleurs son film.
On retrouve l'image de
ouais, avec...
Varda. Grain, Varda, il y a pas un truc.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne vanne avec Varda.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Un grain. Truffaut.
Exactement. Ouais. Exactement. C'est là où Truffaut avait ses studios.
Ouais, mais de toute façon, d'une manière générale, c'est vrai que j'étais très attiré par Paris, beaucoup à travers les films de Truffaut, donc j'allais à des endroits où ça avait tout tourné, mais de toute façon, c'était un Paris vachement fantasmé dans le cinéma, aussi des films de De Broca, de retrouver l'appartement du Magnifique, c'était un truc hyper important pour moi, par exemple.
Est-ce que Truffaut est une référence cinématographique? Tout à l'heure, vous chanterez La vie Varda, mais c'est pas tant le cinéma de Varda que... Enfin si, c'est le cinéma que vous chantez, mais enfin, c'est plutôt
son personnage aussi.
L'esprit et les personnages, c'est ça.
Mais Truffaut aussi, même si évidemment j'adore les films, mais c'est un ensemble de choses, je crois beaucoup à ça. Quand on aime quelqu'un, c'est évidemment son travail, mais c'est sa manière de répondre à des interviews, de se comporter, sa tournure d'esprit, et c'est un truc qui est souvent plus large que juste les films en l'occurrence.
Apparemment, j'ai perdu la
tête.
Qu'est-ce qui vous arrive?
La conduite de l'émission. Mais c'est pas
grave. Mais c'est pas très grave. Tiens, regarde. On est bien là.
Bon, de toute façon, on la suit jamais. Donc
pour la première fois, tu voudrais t'en servir.
Qu'est-ce que les tournées ont changé dans sa manière d'écrire des chansons?
La nourriture?
Qu'est-ce que les tournées ont changé dans sa manière d'écrire les chansons? Il pense plus à la mise en scène par rapport au public. Il y a un vrai travail chez Vincent Delerme là-dessus. Un spectacle total.
Ah, le sommeil.
Ça a une influence. Alors, c'est vrai qu'il y a un spectacle sur l'écriture des. Mais c'est un rapport avec les chansons.
Les références liées aux rues de Paris?
Pour que les gens puissent chanter avec lui, refrains.
C'est même généralement la question que l'on pose à un auteur-compositeur-interprète. On lui demande comment il travaille ses chansons.
La musique d'abord ou les chansons?
Exactement. C'est ça qui a changé. Dans votre manière de travailler.
One point.
Ou pas du tout.
Je me souvenais pas du tout d'avoir fait cette. Mais c'est possible.
Dans une interview, dans un journal qui s'appelle Pianiste.
C'est pointu.
C'est pointu. Oui, ça concerne vraiment. C'est ciblé. Vous avez dit au début, je composais d'abord la musique, mais du fait des tournées, j'ai appris à procéder différemment. Il m'est difficile d'avoir mon piano, mon piano dans le train, donc c'est plus facile d'écrire les textes d'abord.
Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce truc-là. Après, c'est assez bizarre les tournées parce qu'en fait, on est assez nul pour produire des chansons en tournée, alors qu'on a plein de temps pour soi, on prend des trains, mais on est quand même très souvent tendu vers l'énergie du spectacle du soir, ce qui fait que quand tu rentres de tournée, tu comprends pas, t'as perdu plein de temps, mais t'as rien pondu.
Sur l'album, il y a...
Le motel Minnesota, et sur les fleurs du couvre-lit, dans 3 minutes, il entendra ses pas approchant dans la nuit, juste vouloir être à leur place, juste sentir mon cœur qui bat.
La chamade. J'adore cette chanson, vous savez en plus que j'aime.
Je sais, ça me touche, j'étais content de venir la chanter dans votre émission avec Clément Ducol et Maxime Le Guil qui m'accompagnaient.
Je l'adore cette chanson. Et puis il y a Panorama.
J'aime le bitume et j'aime les tours.
Je sais pas, avec le recul, j'aurais voulu faire un truc un peu plus stylé.
Là, c'est Aloïs Sauvage. C'est ça, danseuse, chanteuse, actrice aussi.
Ouais. Et c'était l'occasion d'utiliser d'habitude, j'adore prendre des voix dans les films pour les mettre dans les chansons. Là, du coup, c'est dans mon film que j'ai pu prendre les voix, donc j'étais fier.
Moi, je pleure. Je suis quelqu'un qui pleure.
Les films sont des trains dans la nuit.
Et puis, il y a Pardon les sentiments.
Tellement ce soir, j'aurais aimé. Tellement. Deuxième degré d'Andy.
Alors, faut préciser aussi que c'est un album où vous avez, on l'entend, des invités, entre guillemets, on entend la voix aussi d'Alain Souchon, mais il y a aussi à chaque chanson un travail, une production différente qui est faite.
Ouais,
parce que vous voulez que le grain de la musique soit différent.
Bah, c'était là, par exemple, c'est typique, c'est Voyou qui a fait la chanson qu'on entend, qui a vraiment, un son qui est assez différent de là où j'aurais été si je l'avais fait tout seul dans mon coin. Et puis c'est aussi qu'au bout d'un moment que tu fais des disques, t'as envie que chacun ait une identité assez nette, que ce soit lié à des souvenirs aussi précis. Donc là, le fait de donner 10 mélodies à 10 artistes différents, et de leur demander un arrangement avant d'avoir écrit les paroles et aussi d'attendre d'avoir cet arrangement en main pour écrire les textes. C'était une expérience nouvelle.
Pourtant, tout est très cohérent. On est dans un concept album. On est vraiment dans un album qui n'est pas la bande originale du film, mais qui est très inspiré. Les deux vont formidablement bien ensemble.
Ah ouais, tant mieux, mais ça tient aussi un peu à toujours ce petit phénomène qu'il y a que quand tu travailles sur deux choses en même temps, forcément, il y a un cousinage entre les deux. Mais c'était pas vraiment recherché, à part le fait qu'il y a une chanson sur l'album qui est vraiment donc Panorama, qui est liée au film. Pour le reste, c'était plus cette période-là en fait, qui était comme ça.
À partir de maintenant, vous allez être tranquille, vous n'allez pas répondre, vous laissez tranquillement Tom Villa poser les questions et donner les réponses. Tom Villa.
Vincent Delerme, bienvenue dans la bande originale. Vous êtes ici en terrain connu, évidemment. Nagui, vous le connaissez très bien.
Et... Je suis toujours un peu gêné d'aller sur ce terrain-là.
Oh non, faut pas. Non, ça fait quand même 15 ans que vous jouez régulièrement dans Taratata. Donc...
Ah ouais, putain, et s'il a raison, c'est la honte.
Non. C'est pas la honte, c'est la classe. D'ailleurs, vous faites comment pour que Nagui vous invite aussi souvent dans son émission
Je lui ai toujours mis des branlés.
Ah, et c'est marrant, ça. Hein, des fois, on imagine les gens d'une certaine manière.
Ouais, je sais pas pourquoi t'en parles.
Non, mais bon, c'est pas grave. Alors qu'en fait, ils sont complètement foufous. Voilà, c'est ça.
Ah oui, ça, c'est les soirs de beuverie.
Ah d'accord, ok, bah, très bien, je suis rassuré. Alors on va quand même essayer de se tenir. Ce matin, on se retrouve un peu dans un autre cadre, une autre émission. Peut-être un petit conseil à donner à Nagui en interview,
s'il vous plaît.
Des fois, c'est pas trop la peine de parler de quelque chose qu'on maîtrise pas. Et...
Voilà, mais c'est exactement ce que je lui ai dit. C'est fou la vie. Hein. Alors Vincent, je vais vous avouer aussi un truc, je suis un petit peu jaloux parce que moi aussi, j'aimerais faire comme vous, des chansons douces, amères, sur les petits riens de l'existence. Et,
C'est perdu d'avance, mais on pense.
Non, je vous promets, je suis un gros bosseur. Hein. Déjà, faut que je trouve mon image, mon style comme chanteur, je sais pas comment je pourrais faire.
Vas-y, fais la même tête que moi à tel moment, tout ça.
C'est-à-dire de la même tête que vous, de ça, de. Il faut que je vous imite. C'est... Alors attendez, c'est quoi Vincent Delerme? C'est un peu stoïque, mais l'œil rieur quand même, c'est ça? C'est...
Oh là là, je suis conscient que je vais mourir et tout.
Donc... Non, c'est un peu je vous rassure, tout va bien se passer. Alors après, pour la chanson, il faut que ça soit touchant avec une petite touche de name dropping. Je pensais à. Je sais pas, on regarde un film avec Greta Garbo. Par contre, j'ai pas la suite. Si vous avez une idée, on regarde un film avec Greta Garbo.
Et puis après, on est dans un zoo, et puis.
Oui. D'accord, ok. Donc on regarde un film avec Greta Garbo et puis après on est dans un zoo.
Si possible plus émouvant.
Bah alors vous savez quoi, vous avez quand même joué un petit truc au piano, émouvant, et puis moi je chante dessus. Ok, 3, 4.
On regarde. Cadencer, begin, souquer.
Mais c'est pas du tout ma chanson, Vincent.
C'est pour tout créer.
Vous chantez, il y a qu'à danser en plus. C'est quoi cette chanson, dirait du Philippe Laville sous Xanax? Ah non, mais attendez, Vincent, deux secondes, on se détend. C'est pas ma chanson, et ma chanson, on en fait quoi alors?
Franchement, ça n'a aucun intérêt.
Ah bah super, j'ai connu mieux nous un niveau encouragement, allez, bonne émission.
Merci Damila.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Et on trouve Tom en spectacle à Nantes le 24, 25 et 26 octobre pour les Nommaisons.
Exactement, ouais. Merci.
Allez. Ah, je ne peux plus... D'accord, ok.
C'est pas ton jour,
on
hein
peut chanter, ouais. On peut chanter la chamade, si tu veux. Je peux la chanter.
Non, j'avais envie d'écouter d'autres extraits de l'album.
Non. Il y a des restrictions budgétaires.
Ouais,
c'est très, très... Voilà.
C'est ça. Le
sentiment de solitude. Enfin, je vis le même sentiment de solitude que Daniel avec sa vanne sur les Arabes tout à l'heure. Ça passe, ça passe pas. C'est comme ça. À propos de name dropping, il a raison, Tom Villa. Vous aimez bien citer des auteurs, citer des cinéastes, citer des chanteurs dans vos chansons. Est-ce que c'est pour vous la mémoire collective ou un raccourci pour exprimer un sentiment en disant c'est plus simple dès l'instant où on parlera de Varda ou de Carver? Ah, super, donc maintenant il y a tout qui démarre en même temps, même quand on ne te parle pas. Il finit comme en stage.
Vendredi.
Dernier. Donc, qu'est-ce qui vous motive dans le choix de...
Moi, c'est un peu tout ça. Effectivement, déjà, quand j'ai commencé à faire des chansons, je me disais, je voulais faire des chansons qui ressemblaient à ce que j'avais sous les yeux. Donc, ça passait par des amours, des objets, des gens que j'aimais. Et puis, c'est vrai que je me suis toujours aussi réclamé de... Quand j'ai commencé, je suis pas arrivé en disant, j'avais l'impression de beaucoup rendre hommage à des gens que j'avais pu admirer et qui m'avaient fabriqué un peu. Donc il y avait ça. Et puis après, j'ai mis un peu la dose sur mes premiers albums de nom propre. Et puis après, je me suis un peu calmé. Et puis là, c'était un plaisir de revenir à ça aussi, en se disant, mais en fait, ça sert à rien d'éviter ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnages qui comptent tellement
mais
que...
Mais c'est ce qu'on fait nous dans la vie aussi. C'est-à-dire que, quel que soit, on parle de sport, on a des références avec des grands joueurs de foot, on parle de musique, on fait fait du name dropping avec des albums qui ont été cultes dans notre enfance, ou même quand on entend une nouvelle chanson, un nouvel album, on se dit tout de suite, ah, c'est un peu dans le style de,
ça
ressemble
à. Parce que c'est difficile. Il y a des, par exemple, la musique en particulier, je trouve que c'est compliqué de parler de musique sans convoquer des références, sans faire des comparaisons. Et par conséquent, ça donne, c'est ce qu'il y a dans vos chansons, ce côté très condensé et très bref, parce que en suscitant juste une image, tout de suite, on obtient un fil et un univers derrière qu'on ne pouvait pas soupçonner, en fait.
Et on en arrive au fameux, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle ou pas de la même chose? Exactement. Alain Souchon est présent dans dans votre film et donc indirectement dans l'album. Vous lui faites c'est une déclaration, c'est pas une lettre. C'est pas une lettre. Il a le casque, il écoute votre voix. Clairement, vous n'êtes pas en face en train de la lire, cette lettre.
Non.
Elle a déjà été enregistrée.
Je suis pas loin, mais je suis pas en face.
mais voilà, il fallait la pudeur de ne pas croiser son regard pendant qu'il écoutait cette lettre qui est une véritable déclaration d'amour.
C'est en fait une liste, de tous les souvenirs que j'ai pu avoir avec lui quand j'étais vraiment gamin, puis après un peu plus âgé. Et c'était aussi le fait de vouloir faire un exercice sur ce truc, les gens, quand ils viennent vous parler, souvent, ils vous disent quelque chose, et puis on sent dans leur regard qu'ils se disent « Mais pourquoi je lui dis ça ? Tout le monde doit lui dire, il doit s'en foutre, ça doit pas compter pour lui. » Et donc de faire cet exercice-là avec Alain, et de lui dire ces choses-là, c'était une manière aussi, à l'envers, de dire aux gens que c'est des choses qui comptent énormément. Tous les témoignages, tous ces trucs qui paraissent complètement anecdotiques, quand on vous dit... votre album, il fait juste la durée de mon trajet de RER pour aller au boulot. Et on sent bien les gens, une fois qu'ils ont dit ça, ils disent, oh là là, mais qu'est-ce
sacré
que
compliment,
pourquoi j'ai été lui dire.
Mais c'est ça.
Et en fait, si, c'est ça le super, en fait, c'est ça, le meilleur compliment, justement.
Tu dis que t'es la bande originale de la vie de quelqu'un, ça doit toucher un artiste de l'entendre. Il y a quelque chose de très mignon, et on laissera le soin à ceux qui iront voir, je ne sais pas si c'est tout le monde qui est en salle.
Qui est en salle tous les dimanches.
À partir du 20 octobre, au cinéma des cinéastes. Dimanche matin.
Ouais.
Au cinéma des cinéastes, c'est à Paris, Place Clichy.
Ouais.
Il y a ce moment où vous décrivez une scène de chantée par Alain Souchon en disant c'est génial parce que j'ai vu cette scène chez moi et c'était dans une chanson d'Alain Souchon. Je vous laisserai découvrir quelle scène quand vous verrez le film. Et je trouvais ça formidable parce que c'est comme si Alain Souchon regardait chez moi pour voir et pour décrire cette scène. Et ce à quoi Alain Souchon répond.
Moi, je l'ai imaginé, mais je l'ai pas vu.
Voilà. C'est juste dingue. C'est juste. C'était Régis Lapalès.
J'ai des circonstances atténuantes. J'espère que t'allais pas rebondir là-dessus.
Tu plaisantes. On laisse rien passer ici. C'est vrai, la règle.
Je devrais le savoir.
En live tout de suite, je t'en prie. Va rejoindre tes.
Vous allez prendre une claque, je vous le dis tout de suite.
Non. Au violoncelle, c'est Caroline Boita qui est là. Emma Brighton qui est au cœur et au clavier. Extrait de l'album, l'album lui s'appelle Panorama, c'est Vivarda sur France Inter dans la bande originale.
Je parlais d'une claque vocale, Nagui.
Oui, j'entends bien. Je vous propose encore d'accueillir les musiciennes.
Ressentir une émotion.
Si on peut vivre une vie varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Photographier à Lisbonne un matin d'été, si je peux encore un instant, si je peux vivre comme Agnès, parler avec toi dans la pièce et ressentir une émotion, si je peux vivre une vie varda, marcher sur le sable avec toi, faire une vie hors compétition. Si je peux vivre comme Agnès. Si je peux vivre une vie varda.
Vincent Delerm, un extrait de son nouvel album qui s'appelle Panorama, avec cette vie varda. Si en un adjectif d'ailleurs vous deviez la qualifier, cette vie varda, on a bien compris l'univers dans lequel vous étiez. Mais d'abord, est-ce que vous la vivez, cette vie varda?
Pas toujours. C'est pour ça que j'ai fait la chanson, justement pour essayer de tendre vers ça, parce que ça fait envie, tout simplement. C'est pas une sorte de, c'est pas une obligation. Hein. On ne doit pas tous vivre une vie varda, mais juste quand on la voit se balader, se brancher sur les gens comme ça qu'elle rencontre sur son chemin, être complètement dans l'instant alors qu'elle a toute cette vie déjà derrière elle, toute cette carrière et que jusqu'à la fin de son parcours, elle continue de mettre en place des choses, de s'intéresser à des projets nouveaux, à des artistes qui apparaissent. Mmh. C'est sûr que c'est une attitude qui fait envie. Oui.
Le film, vous avez dit l'avoir commencé il y a longtemps, puis l'avoir interrompu, puis le reprendre. Et au milieu de cette, enfin, l'une des causes de l'interruption, ça a été aussi les attentats. Vous avez besoin de vous resituer par rapport aux attentats 2015.
C'était un moment où le film pataugeait déjà un peu, et aussi effectivement, il y avait cette idée que c'était, je me voyais pas passer un an à faire des réunions avec la prod, à dire mais je comprends pas pourquoi on n'a pas le financement là et là, parce que c'est quand même beaucoup ça un film. Il y avait mieux à faire, et en l'occurrence, effectivement, j'avais envie de remonter sur scène assez vite avec ce qui s'était passé. Oui.
Est-ce que l'idée de projeter le film autour de la tournée, parce que vous allez partir en tournée avec ce nouvel album, du 22 octobre au 7 décembre, vous serez à La Cigale à Paris, il y a également une tournée en province, Toulouse, Bordeaux, Biarritz, Deauville, Lyon et Nantes. Est-ce que le film pourrait être projeté en première partie du concert, ça a été envisagé ou pas, ou en tout cas dans un cinéma de la ville au moment où vous passez?
Ouais, c'est plutôt ça, parce que en fait, comme le spectacle est lui aussi très axé cinéma, je suis seul sur scène avec un écran de cinéma derrière moi et on a généré d'autres vidéos qui ont des fois un lien avec le film, mais plutôt pas la plupart du temps. Mais par contre, effectivement, comme il y a ce cousinage, ce serait super toutes les fois où on pourra passer le film la semaine où on est là. C'est un film qui ne nécessite pas de sortir partout au même moment et de créer cet événement-là. Il pourra se voir un peu dans la durée.
C'est un film d'arrêt et essai. C'est un film qui est vraiment dans l'esthétisme, mais avec c'est pas que de la contemplation. Il y a aussi du fond, des témoignages face caméra où les gens se racontent. Et c'est ça qui est touchant, c'est-à-dire que vous laissez aussi, vous servez même de quelques hésitations. Je pense à Aloïse Sauvage où trois fois d'affilée, trois fois elle se reprend et vous laissez ça.
Bah oui, parce que c'est ça qui fait qu'elle est super, cette fille, elle est très forte en danse, elle chante incroyable et tout, mais ce qui fait le fond de moi, ce que j'adore chez elle, c'est quand même de sentir la personne qu'elle est derrière tout ça, et cette fièvre-là, cette envie qu'elle a de dire plein de trucs dans la même seconde, et du coup ça se télescope, et c'était ça que je voulais garder.
Et on sent une émotion forte, et je reviens là-dessus, sur cette dernière scène de Jean Rochefort au cinéma, où lui-même d'ailleurs dit... vous allez quand même pas me faire tourner ma dernière scène dans cette rue
catastrophique.
Catastrophique, ouais.
Bah, c'était sa tournée en esprit parce qu'il savait très bien pourquoi j'avais choisi cette rue-là. Je voulais le voir partir dans la nuit. Évidemment, je lui ai pas dit bon Jean, on va vous voir partir dans la nuit. Et puis voilà. Donc, mais il savait comprendre ça. Il savait aussi qu'on aimait bien le genre de cinéma de justement de Broca, où il y a souvent des rues un peu comme ça, un peu bizarroïdes, un peu presque glauques, mais qui deviennent poétiques.
Et pourquoi le cartable?
Et parce que ça correspondait à une petite séquence qu'il faisait avant, où il faisait une conférence, ouais, il avait ce cartable-là, ouais. Et voilà. Mais après, ce qui était touchant, c'est que tous les gens qui étaient sur ce tournage-là, on n'était pas très nombreux, mais on savait tous que c'était son dernier plan. Donc quand il a fallu dire c'était le dernier plan de la journée de Jean Rochefort, on a tapé dans les mains comme si c'était une journée parmi les autres, sauf
ça
que
pique un peu,
c'était,
ouais.
c'était autre chose.
Vous étiez qu'une dizaine en plus autour de cette scène-là. Vous avez fait exprès de laisser le couper?
Ah, c'est drôle, c'est rare les gens qui l'entendent. J'ai fait exprès de le laisser. C'est mon ami Grégoire de Calignon, qui est chef opérateur sur le film, qui dit ça. Et on a fait exprès, oui.
Et je sais, dans un cinéma, ton visage, tes yeux qui s'inondent, mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
Je ne sais pas si c'est tout le monde, c'est le film qui est en salle à partir du 20 octobre au Cinéma des Cinéastes à Paris tous les dimanches. À partir donc de ce 20 octobre, puis concert du 22 octobre au 7 décembre, il sera à la Cigale à Paris. Et puis la tournée en 2020, Montbrison, Toulouse, Bordeaux, Biarritz, Deauville, Lyon, Nantes. Ça se poursuit en mars à Poitiers, Lille, Bruxelles. Ça sera on est en Poitiers. Avril déjà. J'ai dit quoi?
Non, c'est bien, Poitiers, c'est bien.
Ah oui, d'accord. Ah oui,
bonjour.
Poitiers, c'est bien. Vittel, Tours, Plougastel, Châteaudun, Clermont-Ferrand, Annecy. Personne non, Annecy au mois de mai, personne. Non, okay,
personne.
Très bien. Très bien. Okay. Mais voilà, Vincent Delerme qui est notre invité. L'album, lui, s'appelle Panorama. Il est déjà en vente libre. Voici Frédéric Sigrist.
Bonjour à tous. Alors, petite question avant. Est-ce que tout le monde a le permis autour de la table?
Le permis voiture, oui. Moto.
Daniel, t'as le permis?
Ouais, permis de chasse, permis
de conduire. Permis de conduire?
Oui.
Oui. Mais pour aller où? Tu vis pratiquement ici, en fait. Tu vas pas faire croire que t'es des amis. Leïla, toi, t'as le permis?
Bien sûr.
Ah bon, parce que Guillaume m'a dit que c'était contre-indiqué, tu sais, rapport à ta relation avec le Morito.
Avec l'alcool, oui.
Ok, donc je suis le seul à pas avoir le permis.
Je m'en sors, ouais.
Bah, okay. Apparemment.
Eh ben, à 42 ans, j'ai pas le permis et je crois que je suis arrivé au point de ma vie où ça devient gênant.
Ouais.
Et il y a des choses qui sont plus ou moins bien vues en prenant de l'âge. L'allaitement, par exemple. Quand ma mère m'allaitait à 6 mois, les gens trouvaient ça mignon. À 6 ans, ils ont commencé à jaser. Et à 16 ans, ils étaient dans le jugement. Et ça m'a toujours agacé quand les gens s'étonnent que j'ai pas mon permis. Ils te regardent comme ça, ils font. Ah bon? T'as jamais passé ton permis? Mais comment ça se fait? Eh ben ça se fait que c'est pas un service public en fait. C'est un peu payant votre truc là.
Un peu cher.
C'est assez rare que... Oui, c'est cher. Ouais, c'est assez rare qu'un moniteur, tu vois, d'auto-école s'arrête devant toi en te voyant marcher dans la rue en disant « Dites, vous savez pas conduire? Mais montez dans la voiture, j'ai 2 heures à perdre, là, je vous apprends. » Non, c'est payant. Si j'habitais dans un HLM à Grigny, personne me demanderait « Comment ça se fait que tu vis pas dans un duplex avec vue sur le Sacré-Cœur ? » Mais pourquoi ce choix ? Les gens oublient vite le système de causalité qui les a conduits à avoir le permis. Ce paradigme mystérieux que l'on appelle « l'argent de papa et maman ». Alors je sais, t'en as toujours 2-3 qui vont me dire que le permis, ils se le sont payés tout seuls, en travaillant durement après les cours. Tu sais, le genre de gars courageux qui allait ramasser des patates, même en hiver, tu vois, à main nue. Alors, bon, en attendant, au lycée, les potes que j'ai vus faire la conduite accompagnée, ils faisaient pas les 3-8 ou Creusot, hein. Donc, le coût moyen du permis à Paris, ça se situe entre 900 euros et 1500 pour 20 heures de conduite. Alors, je le sais parce que je viens de m'y inscrire, et c'était horrible. Je suis arrivé, l'instructeur m'a dit « Vous venez chercher qui ?» C'est la loose. Les jeunes là-bas, ils me regardent comme un pédocriminel en maraude. L'instructeur, il m'a donné les tarifs, et là, il ajoute « Oh, mais de toute façon, vous savez, 20 heures, c'est pas suffisant. » Et là, ça m'a interpellé parce que je suis jamais tombé sur des recettes de cuisine qui disent « Mettez au four pendant 45 minutes, thermostat 180, mais méfiez-vous, ça sera pas cuit. » Et ensuite, il faut ajouter 50 euros par heure de conduite supplémentaire. Mais franchement, payer 1500 boules pour un truc que t'es pas sûr d'avoir, je suis étonné que le permis rentre pas dans la catégorie des jeux de hasard. À ce tarif-là, moi, je pense que le moniteur, il devrait te rembourser si tu l'as pas eu. Vous allez me dire que depuis l'adolescence, j'aurais pu me le payer. Et vous avez raison. Mais j'ai joué la montre. Je me suis dit, avec toutes les menaces environnementales, la fin des énergies fossiles, je me suis dit que ça serait quand même con de passer mon permis pour qu'on repasse à la carriole dans 2 ans. Moi, je m'étais dit que vu le contexte écologique, je vais peut-être passer du mec très en retard au mec très en avance sur son temps. En plus, jusqu'à maintenant, ça me gênait pas vraiment de pas avoir le permis parce que les gens trouvaient des excuses pour moi. Tu sais, quand je disais, vous avez pas le permis? En même temps, à Paris, il y en a pas besoin. Et ben voilà, à Paris, il y en a pas besoin. Il y a besoin de rien à Paris. Il y a même pas besoin de manger. C'est pour ça que les loyers sont si chers. Ce qui a changé, c'est que depuis que j'ai des enfants, en fait. Enfin non, ce qui a changé, c'est depuis que ma femme a le permis. Parce que du coup, les activités, les rendez-vous médicaux, les courses, les trajets, les vacances, elles se tapent tout. Et quand ils partent en vacances, bon bah moi, j'avoue, je monte dans la voiture, tu vois. Je vais pas courir à côté. J'affirme mes convictions, on se rejoint à Biarritz. Enfin, non,
il t'emmène quand même.
Il m'emmène. Ah, et quand il part en vacances, voilà, je suis dedans. Et là, je vais vous dire, tu peux faire la vaisselle, la lessive, les toilettes, les fenêtres, les devoirs. Si t'as pas le permis et que ta femme, oui, niveau charge mentale, ta femme, ça devient un réacteur EPR. Hein. Quand tes enfants, le dimanche à table, dans famille, tu sais, t'es en train de manger le gigot, ils te balancent. Papa, il sait pas conduire, c'est maman qui conduit pendant qu'il dort à côté. Là, mais t'as beau dire n'importe quoi, t'es mort. T'as beau avoir offert le livre de Mona Chollet à tout le monde avec la dédicace qui va bien, militer pour la parité, l'égalité salariale, tout ça. Pour ta famille, désormais, il y a les talibans et toi. Et moi, pendant longtemps, je pensais qu'un mec au volant de sa bagnole, c'était le truc le plus macho du monde. Eh ben non. Le truc le plus macho du monde, finalement, c'est un mec sur le siège passager.
Merci,
France Inter, Nagui, la bande originale.
Et on retrouve Fred le 17 octobre à Port-Jérôme-sur-Seine et du 24 octobre au 2 novembre, cette fois-ci à Grenoble, à la basse-cour.
Et il vient en train. En train.
Pas de feu, il restera. La nuit monte au banc. Une photo en 2003. Et tu fumes sur le banc.
C'est vrai que la photo est très présente aussi dans cet album, parce que est-ce que c'est vraiment tout ce qui restera de nos vies sur cette planète?
C'est un peu
quand on est artiste, ce qui reste, c'est l'œuvre que l'on crée. Ce sont les albums, ce sont justement les films, les écrits, les pièces de théâtre également. Ça, c'est des choses qui restent.
C'est un peu un titre à l'envers, parce que c'est un peu un titre qui dit qu'en fait, c'est très difficile de pronostiquer ce qui va rester, et que c'est surtout effectivement des impressions assez fortes et pas forcément les grandes dates a priori de notre vie, celles auxquelles on pourrait s'attendre. Ouais.
Ce qui restera, alors j'ai dit que l'album était déjà sorti, désolé, on est des privilégiés, on a pu nous l'écouter avant, il sort vendredi en fait.
Moi, je l'ai déjà revendu à bon prix. Hein.
Ce soir j'aurais aimé tellement. Deuxième degré d'Andy, désinvoltant.
On va parler de la bande originale aussi de ce film sur lequel il y a beaucoup d'allusions faites à, par exemple, Bessame Mucho.
Bessame.
Le Tino Rossi.
Bessame Mucho. Como si fuera esta noche la última vez.
Une allusion faite à UMS, l'ultra-moderne solitude.
Pourquoi c'est.
C'est vrai que vous disiez UMS entre copains pour parler de cette chanson.
Non, c'était les gens chez Virgin qui ont bossé sur le disque, ils disaient ça.
Pardon, ouais.
Marc Maréchal, les gens comme ça, vous voyez.
Branchés,
les
gens métiers. Les gens branchés, exactement. Et puis vous évoquez une chanson qui n'est pas très connue de William Scheller.
C'est une pluie légère qui court sur mon histoire. Des lettres d'avant-guerre et leur parfum bizarre.
Chanson dont vous faites une reprise.
C'est une pluie légère. Cours sur mon histoire, des lettres d'avant-guerre et leur parfum bizarre.
Et puis vous faites chanter votre douce et tendre Virginie.
Je connais la nuit.
C'est très émouvant ce que le témoignage aussi de votre femme dans ce film, où elle explique que d'avoir perdu ses parents très tôt, elle a toujours voulu, enfin ce sentiment de toujours voulu avoir une famille.
Créer des familles, des familles d'amis, et puis aussi évidemment créer une vraie famille.
Ouais. Non, c'est très touchant. Vous avez posé la question de la limite de l'intime avec la présence de vos enfants et de votre femme dans le film.
La limite est un peu différente des albums parce que les chansons, tout le monde peut les entendre, elles peuvent passer comme ça en extrait. Et puis là, je me disais qu'il fallait faire la démarche d'aller voir le film, donc j'avais un curseur qui allait un petit peu plus loin là-dessus. Ouais.
La bande originale de La Vie de Vincent Delerme commence en 1976 où vous écoutiez.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
N'est-ce pas Fred?
On est foutu, on mange trop.
Mais non, c'est
ça.
C'est
avant.
Non, mais t'as compris?
Oui, oui.
Toi, t'as compris?
J'ai compris depuis longtemps.
Bah, depuis longtemps, ça va.
Ah non, c'est une vie.
Voilà, c'est ça. 1976, Alain Souchon. C'était la première chanson que vous ayez découverte d'Alain Souchon?
Ah, c'était sur cet album-là, en tout cas. C'est l'album Toto 30 ans, oui, c'est le premier disque que j'ai découvert.
Et 76, c'est l'année de votre naissance, Vincent Delerme. On connaît votre père, on connaît aussi votre mère. On les a reçus tous les deux ici dans cette émission. Quand on parle de votre enfance, on vous imagine donc à la campagne, dans quelque chose d'assez bucolique, un peu léger, mais en vrai, c'était quoi l'enfance de Vincent Delerme?
Ouais, non,
parce que c'est ce côté genre, on est chez les profs, donc forcément, on est baigné dans de la culture. En vrai, c'est quoi une enfance? Comment, quel mot on pose dessus? Parce que voilà, je pense que c'est bien loin de cette idée.
Justement, je trouve que c'est toujours difficile de résumer l'enfance. Après, quand on devient adulte, on a tendance à schématiser beaucoup le truc, à raccourcir un peu, mais l'enfance, déjà, c'est long, ça passe par beaucoup de moments où on n'est pas très certain de ce qu'on ressent. C'est pas ouais, c'est super, j'ai une super enfance, ou au contraire, j'ai une enfance malheureuse. C'est plein d'impressions fortes qu'on ne sait pas tellement dans quelle case ranger.
Et reprenons un terme de photographie. Quel cliché donneriez-vous à votre enfance?
Bon, en tout cas, elle était forte. Je dirais, j'utiliserais ce mot-là, même si c'est pas un mot qui passe pour de la photo, parce que, en tout cas, elle m'a laissé beaucoup d'impressions. C'est vrai que d'être près d'une forêt, d'avoir cette époque-là aussi, hein, mes parents étaient donc profs, ils faisaient plein de clubs avec des élèves qui venaient à la maison pour apprendre d'autres trucs, qui me disaient « Ah là là, mais tes parents, c'est génial, c'est mon prof préféré. » Donc je me disais « Bon, bah ça a l'air bien, j'ai l'air d'avoir eu du pot, parce que c'était le prof préféré de plein de gens. »
Ouais, et la chanson était aussi une donnée importante à la maison, ça pour le coup.
Oui, oui, c'est vrai que très tôt, ils avaient cette culture-là de chansons, et ils faisaient...
Papa chantait.
Papa chanteur, papa chantait. Et il faisait même des spectacles, une fois par an ou une fois tous les deux ans. C'était beaucoup, beaucoup de stress pour lui parce que mais il était avec un ami, Marc, qui l'accompagnait à la guitare. Et puis, il a même proposé une fois des chansons à Gérard Lenormand, dans une loge, figurez-vous. Et il a même cru que ça allait être pris, et puis en fait, non. Et ça, c'était une
déception.
C'était un moment de déception.
Ouais, j'imagine. Les spectacles étaient des spectacles familiaux, c'est-à-dire qu'aussi bien Martine, votre maman, que lui, montaient des décors, racontaient des histoires.
Ouais.
Parce que c'est quand même le propre, le point commun de la famille. Tous les trois, vous aimez raconter des histoires.
En tout cas, c'est vrai que moi, enfant, j'ai toujours beaucoup reproduit les spectacles qu'on allait voir. Mais ça pouvait être de la chanson, mais aussi bien du cirque. Je me souviens de leur faire tenir des journaux pour pouvoir les couper en deux avec un fouet. Enfin, j'étais
le fouet de papa, le fameux
voilà,
fouet
qui était rangé derrière l'armoire. Et alors, non, du coup, j'aimais ça. J'aimais bien mettre en scène des choses, m'enfermer, dire ça y est, c'est prêt. J'ai un spectacle à vous montrer.
Dans le film, arrêtez-moi si je me trompe, il n'y a qu'une allusion faite à votre maman, aucune à votre papa.
Oh, j'ai tellement l'impression qu'ils sont présents quand je parle de ça, d'aller voir ma grand-mère, de revenir de Paris, de vivre à 120 km de là, et puis, je sais pas, j'ai jamais l'impression de ne pas parler de lui, j'ai l'impression que tout mon parcours parle de lui d'une certaine manière.
1993, vous écoutiez. Divine Comédie. Ça vous renvoie quelles images d'entendre cette chanson?
Ah, c'était vraiment ce que j'attendais. En fait, je rêvais de ça, d'un type comme ça, un peu avec une musique baroque, avec beaucoup d'élan. C'était des musiques que j'écoutais quand j'étais amoureux. Et vraiment, je leur remercie beaucoup d'avoir existé à ce moment-là, parce que c'était pour le coup vraiment la bande originale de ma vie dans ces époques.
Vous avez une période Cure?
Oui, j'avais mon cousin aîné, qui avait 2-3 ans de plus que moi, qui aimait Cure. Donc, pendant longtemps, j'ai fait semblant d'aimer parce que j'avais envie
de faire partie de la bande,
de lui plaire. Ouais. Et puis je lui découpais des photos de Robert Smith, je lui offrais les cahiers. Et puis j'avais l'impression qu'il m'aimait un peu plus comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par aimer pour moi aussi.
Ouais, vous vouliez même devenir le Robert Smith français. Et à cette époque-là, c'est un peu la double vie, j'ai envie de dire, Vincent, pardon. Parce que
non, vous avez... d'un coup, j'ai l'image. Là.
Non, ouais, parce que vous avez monté un groupe de musique qui s'appelait Triste Cire, et parallèlement, vous composiez aussi des chansons, plus chansons dans la tradition, chansons françaises en fait. Il y avait un double mouvement.
Là, pour le coup, il y avait une vraie colonne. Tout ce qui était un peu sous la pluie et tout, c'était Triste Cire. Et puis tout ce qui était plus youpi ou plat, c'était des ragtime au piano. Et quand j'ai arrêté le groupe, ça m'a permis de mettre un peu de pluie dans les chansons aussi.
Ouais, et vous chantiez comment j'imagine qu'on chante pas de la même façon selon les...
C'était excellent. Hein. c'est tout non, ce que je peux dire.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on chante pas de la même façon quand on est dans Triste Cire ou quand on est au piano pour faire de la chanson française.
Oui, oui. J'ai des souvenirs de répétition. Il fallait couvrir la batterie avec la voix sourde et tout. C'était. Mais bon, c'est des souvenirs
C'était plus triste que Cire en fait.
Non, je sais pas. Puis c'était avec un de mes meilleurs amis d'enfance. L'histoire est pas drôle parce qu'il est mort très jeune, ce gars à 30 ans, Vincent. Mais on a beaucoup rêvé de faire ça ensemble quand on était au lycée. On cherchait des noms de groupes. en mettant des mots ensemble, on cherchait dans le dico de anglais. Et c'est, c'est au-delà de la musique, c'est surtout ça. C'est ce moment-là où on se dit, tiens, bah, on pourrait faire un visuel, ce serait ça, l'affiche, ça va être ça. Puis la setlist, ça va être ça. Puis la setlist, c'était des chansons qu'on n'avait pas encore écrites. Donc, et c'était beaucoup le fantasme.
La setlist étant la liste des chansons à chanter sur scène.
Oui, pardon. Oui.
Quel est le premier concert auquel vous avez assisté?
Je dirais que c'est un concert d'Angelo Branduardi.
C'est pour ça qu'il est cité dans votre album.
Oui, c'était vraiment un chanteur
avec,
de cette
époque-là. Avec Rufus, hein.
Exactement, parce que justement, c'est un spectacle que j'avais essayé de refaire un peu, mais là, c'était au Palais des Sports, et donc il était allongé sur scène, il fumait, il y avait des ballons qui tombaient à la fin du spectacle, ça m'avait fait beaucoup d'effet.
dans votre bande originale, on est dans les années 2000, début des années 2000, vous écoutiez.
T'es beau parce que t'es courageux, de regarder dans le fond des yeux, celui qui te défie d'être heureux, t'es beau.
Pauline Croze.
Et au début des années 2000, Vincent, on vous retrouve sur scène. C'est les premières scènes parisiennes. Les déchargeurs, déjà, je crois que c'était quoi, 40 personnes à jauge, 40 places.
Ouais, oui, c'était une petite cave comme ça. Ouais.
Ouais. Et qu'est-ce que ça fait justement de commencer dans une salle comme ça? On doit penser, j'imagine, à toute la tradition de la chanson française qui a commencé dans des salles minuscules aussi.
Bah, c'est vrai qu'on était toute une génération qui a fonctionné dans cet endroit-là, qui est passée par des boîtes à chansons, des cafés chansons. Je suis content d'entendre Pauline Croze, j'ai mis son nom aussi parce que c'est une génération qui a... Il y avait beaucoup de monde et puis des gens qui ont eu plus ou moins de chance, qui sont plus ou moins là aujourd'hui, mais qui comptaient beaucoup pour moi. Donc,
C'est de la chance pour vous d'être encore là, de durer dans une carrière?
C'est un mélange de plusieurs choses, évidemment que faut quand même travailler un peu et puis il faut avoir un peu de chance aussi quand même, oui.
Et puis il faut rester collé, soit collé à l'air du temps, soit ne pas nier ses racines et ce pourquoi le public vous aime aussi. Ça c'est délicat d'ailleurs, on ne sait jamais si un artiste doit rester stable dans ce qu'il fait pour ne pas céder à la tentation de suivre une mode, parce qu'être à la mode ça veut dire disparaître un jour, et être stable ça peut aussi reculer,
un peu pépère,
et se faire oublier.
C'est une question que je me posais plus au début quand il fallait enchaîner sur un deuxième ou un troisième disque, mais avec les années c'est assez naturel de suivre son chemin sans déjouer et en même temps d'essayer de s'élargir en rencontrant d'autres gens et en travaillant un peu autrement et en modifiant des choses au fur et à mesure.
On se demande de temps en temps si on doit arrêter ou pas. Est-ce que c'est des questions qui se posent régulièrement ou pas chez un artiste?
En fin de tournée, souvent, ça arrive.
Il y a une sorte de fatigue.
On a vu d'autres albums qui sont sortis, qui sont excellents.
Un baby blues, quoi.
Et nous, on sent qu'on n'a pas du tout la caisse pour refaire un disque tout de suite. Enfin, c'est un moment où souvent on se dit, ouais, je crois que là, il faut que j'arrête.
Les années 2000, c'est année de rencontre également avec François Morel, qui vous fait, entre guillemets, fait le contact avec France Inter, c'est ça. François Morel, vous êtes fâché avec lui?
Ah non, pas du tout.
Mais je sais pas, il n'est pas dans le film, il n'est pas dans l'album.
Mais en tout cas, il est fâché avec vous. C'est un seul spectacle, Nagui, François Morel.
Non mais d'accord, c'est une vanne que j'ai faite dans tous les spectacles. Mais là, en l'occurrence, il n'est pas dans le film, il n'est pas dans le disque.
Ah oui, non mais il aurait très bien pu y être, si j'en fais un autre, il y sera.
C'est ce que je dis, c'est ça.
Il y a beaucoup de gens, comme cette catégorie-là, il y a Albin de la Simone, par exemple, qui n'est pas...
Si,
il est dans le film un petit peu, c'est vrai. Mais dodo. Sur le disque,
il est dodo dans le film.
Lui faire réaliser un titre et une autre fois, je le ferai.
Il est un peu fâché avec François Morel, ok d'accord.
Quel footeur de merde.
En 2000... Non mais il y a de quoi, de toute façon, François Morel, c'est pas quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance.
Allez.
C'est quelqu'un de sympa.
Ça saurait. En 2016, vous écoutiez.
Matin et soir, soir et matin, change de wagon, je change de train, sans entrain, pour assurer mon train quotidien.
Teamed up avec cette nouvelle génération d'auteurs, comme je pensais aussi à Eddie de Pretto. À moins que vous ne les mettiez pas ensemble, Teamed up et Eddie de Pretto, vu la tête que vous faites.
Non, je réfléchis à ce que je vais répondre. C'est normal.
Non, mais de savoir comment vous écoutez cette nouvelle génération, justement, d'auteurs.
Bah, justement, c'est assez joli parce que ils ont un cœur de reprendre des codes qui sont ceux de la chanson, de la métisser autrement et de l'inscrire dans l'époque actuelle. Donc.
C'est Clara Luciani aussi, Angèle, il y a Aloïs Sauvage aussi.
Bien sûr.
Il y a des jolies plumes qui arrivent.
Il y a toute une génération de filles que j'adore. Je trouve les filles sont métisses encore plus. C'est encore plus difficile à lire chez les garçons. Il y a souvent l'urbain prend vite la place, mais c'est pour ça que j'aime bien des gens comme Teamed Up aussi, parce que lui, il est dans cet entre-deux qui me touche.
Et en 2016, on vous retrouve en tant que photographe de façon un peu plus installée, puisque vous publiez 3 livres de photographie chez Actes Sud. Donc c'est vraiment une, enfin la photographie, quand on vous suit même sur les réseaux sociaux, on sait que c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien depuis très très longtemps. Et donc 3 livres, le dernier s'intéressant à la vie de tournée, parce que ça c'est toujours le grand mystère pour les gens qui ne sont pas des artistes, savoir comment ça se passe une tournée, en quoi c'est rock'n'roll, c'est fou.
Il n'y en a sûrement pas deux qui se ressemblent d'ailleurs de tournée, mais en quoi ressemble la vôtre.
Et vous documentez ça finalement, quelque part.
Oui, parce que ça m'a souvent frappé ce truc-là, qu'il y avait deux fantasmes, les gens qui pensent que c'est tout le temps pareil, on dit ça des fois quand même, là ce soir vous êtes à Béziers, mais ça doit être exactement le même spectacle qu'à Nantes, et c'est difficile de faire comprendre qu'effectivement on fait les mêmes chansons, on fait à peu près les mêmes transitions. Et pourtant, ça a rien à voir parce qu'il y a.
On peut déjà rappeler qu'il n'y a pas deux salles qui résonnent entre guillemets de la même manière, d'un point de vue acoustique.
Surtout, moi,
et après, il y a les êtres humains.
Je fais pas de tournée des Zéniths et tout, donc les salles sont très différentes les unes des autres à chaque fois. Mais c'est tout. Évidemment, c'est l'ambiance de la journée, c'est le directeur qui vient vous dire bonjour ou pas, qui vous explique, qui vous prend la tête en vous disant que le rapport scène-salle est très bon, alors qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il l'est pas, ou au contraire, qu'il est très discret. Et vous dire bon, j'espère que ça ira, et puis en fait la salle est géniale, et voilà, c'est toutes ces choses là et puis la photographie, oui, c'était beaucoup cette vie de autour des théâtres, autour dans les loges, les salles vides. C'est prenant de faire des répétitions face à la salle qui est toute vide, et on a du mal à raconter ça en revenant.
Est-ce que vous avez un rituel particulier? Est-ce qu'il vous faut absolument quelque chose dans une salle? On sait que les artistes communiquent une liste avec un certain nombre de demandes. Est-ce que vous, il y a quelque chose dans cette liste qui fait sens particulièrement?
Pas tellement, non. J'ai pas beaucoup de superstitions, trucs comme ça. J'aime bien que les derniers 3/4 d'heure, la dernière heure, être tout seul dans la loge pour être un peu branché sur l'énergie des gens qui sont en train d'arriver. Parce que les fois où on arrive du resto et où t'enfiles ta chemise, tu vas sur scène direct, t'arrives et tu te dis, mais en fait, je suis pas à la hauteur de ce truc, que des gens qui ont fait un babysitting, qui machin. Donc il y a ce moment-là qui est un peu sacré où les énergies convergent déjà un peu alors qu'on n'est pas encore sur scène.
Pouvez-vous rejoindre votre piano?
Mais oui.
S'il vous plaît, Vincent Delerme, parce qu'il va nous interpréter une reprise, un cadeau pour la bande originale. L'album avec La Chamade, l'album s'appelle Panorama, il sortira ce vendredi, et tout de suite sur Inter avec sa voix, même sa voix malade, et la gentillesse de nous interpréter quelques mots d'amour, Vincent Delerme.
Avec le soutien d'Emma Breton au cœur et Caroline Boita au violoncelle. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. Ça, c'est pas entendu que je me suis trompé dans le piano. Non, ça va. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Ah, alors là, ah. Là c'est dur. Ah, je t'envoie mon décor.
Est-ce que vous bloquez ces paroles, Vincent?
Vous n'avez pas une idée de l'accord qui peut être derrière les
filles. Tu sais quoi, en fait, parce que là, on va avoir un problème avec les infos de midi où vraiment je vais me faire charrier par Laetitia Gaillier.
Tu veux que je fasse le dernier couplet?
Non, oui.
Allez,
vas-y.
Je vais le faire hyper lentement alors. De mon village, je sens à l'heure où les docteurs greffent des cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. C'est quelques mots d'amour.
Merci. Là, au moins, la preuve était faite.
Entendu comme ça,
c'était live. C'était vraiment live. Tanguy Pastureau, bonjour, bonjour Tanguy. Vous avez une petite annonce personnelle à faire.
Oui, je voulais dire que je vends un numéro collector du journal Le Parisien, daté de samedi, avec le visage de Xavier Dupont de Ligonnès et ce mot arrêté. Alors là, pour l'instant, ça ne veut rien, mais en 2040, quand on aura arrêté un monsieur de 29 ans d'origine sénégalaise qui n'a que 4 doigts et qu'on aura dit sûr, c'est lui, eh ben, je vendrai les deux journaux en même temps.
On en reparle après les infos de midi. La bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoumoudali, Daniel Morin, Tom Villa, Frédéric Siris, Tanguy Pastureau et notre invité Vincent Delerme.
Bonjour.
L'album s'appelle Panorama. Il y a d'ailleurs une chanson éponyme.
J'aime le bitume et j'aime les tours.
Je sais pas, avec le recul, j'aurais voulu faire un truc un peu plus stylé.
La MJC.
Je me suis retrouvée à la MJC de ma ville.
Le mercredi.
Des duos également présents, Rufus Wainwright.
Je chante allongé sur le lit. Broadway musical comedy.
Ou encore Keren Ann.
À la fin, il restera.
Non, c'est Karen, pardon, qui a réalisé cette chanson. Pardon.
Absolument. On entend son cœur, ouais. Ça fait presque un duo.
Une photo.
Merci, tu me sauves.
En 2003. Et tu fumes sur le banc.
Fernando de Noriona.
La ville.
D'où? Pourquoi?
Tes cheveux.
Ah, mais c'est parce que j'étais là-bas il y a deux étés. Et il y a eu cette. C'était un endroit qui est une île qui est très belle et. Le soir, en remontant dans la pente, c'était un peu le moment de la nuit avant de rejoindre la maison où tu discutes avec les tiens, et en l'occurrence avec mon fils aîné qui allait rentrer au collège à la rentrée suivante. Il y avait cette idée qu'il allait partir dans Paris tout seul pour la première fois, et c'était un moment assez fort. Donc voilà, c'est un texte qui rend compte de l'échange qu'on a à ce moment-là, parce que c'est un enfant qui parle pas forcément tout le temps et qui dit pas forcément toujours ses sentiments. Donc c'était précieux, ce moment.
Tellement ce soir j'aurais aimé, tellement. Deuxième degré d'Andy, désinvoltant, pardon les sentiments.
Il y a quelques villes comme ça qui sont citées aussi. Seattle fait partie.
Seattle, oui, c'est lié à des poèmes de Carver, qui est un écrivain que j'aime bien, que j'emporte toujours un peu avec moi dans les périodes où je dois écrire des textes, parce qu'il est. Il est assez stimulant de relire ses poèmes. Il y a une forme très courte et assez intense et très inscrite dans le présent, dans la vie. Et du coup, voilà, comme je l'avais pas loin de moi, j'ai fait ce texte-là.
Je tourne les pages d'autres orages, un cendrier des fleurs, et dans ma nuit, une autre nuit, un poème de Carver.
Je ne sais pas si c'est tout le monde, c'est également le titre et d'une chanson et du film.
Et je sais, dans un cinéma, ton visage, tes yeux qui s'inondent, mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
Je ne sais pas si c'est tout le monde, le film sera au cinéma à partir du 20 octobre, c'était Place Clichy à Paris, au cinéma des cinéastes, tous les dimanches, et puis la tournée, l'album d'abord, pardon, Panorama sortira ce vendredi, puis la tournée commencera par La Cigale à Paris, du 22 octobre prochain au 7 décembre.
Ça va être grand,
ah ouais.
T'es toujours grand,
La
Cigale, mais j'adore aller voir Vincent en concert, moi. Cette chanson je la trouve complètement dingue.
Il faut dire que c'est plus qu'un concert, c'est
parce qu'il y a une interaction avec le public. Il y a un vrai travail de vidéo et un vrai. Il y a une vraie une imagination qui est mise en œuvre. Quoi. On se dit
ça
vraiment.
Ça m'a l'air un peu fouillé tout ça.
Mais non, t'es fou. C'est un vrai bonheur. On sort de là, on est très heureux et on n'est pas tout seul à être heureux. On se regarde tous et on est très content d'avoir été là.
Ce qui est dingue, c'est la dose de travail qu'il y a avec ce côté très nonchalant, soi-disant, mais il y a énormément de travail.
Tout est écrit. C'est un plaisir aussi parce que tu sais que sur scène, déjà, le spectacle, tu vas te le manger pendant un an et demi. Donc. T'es content qu'à chaque fois ça ressemble pas trop à la fois d'avant, d'inventer une scéno, et puis des moments aussi, et c'est vrai que tu ressens aussi, c'est bête ce truc-là, de que les gens t'aiment te remercient d'avoir fait cet effort-là à chaque fois. C'est un truc qu'on ressent quand même beaucoup dans la fin de spectacle notamment, et c'est.
Puis vous êtes généreux sur scène, vous êtes vraiment généreux.
C'est le seul endroit.
Ouais. Ça tombe bien.
Vincent Delerme, t'as eu jusqu'à midi et demi, tout de suite, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, tout va trop vite aujourd'hui.
Oui, tout est frénétique. Si à la caisse du Monop, vous n'emballez pas vos courses assez vite, les gens râlent, ça met une pression folle. Samedi, j'ai mis du temps à retrouver ma carte de fidélité. Une dame âgée dans la queue m'a mis un coup de béquille dans le genou. Tandis que j'étais à terre, elle m'a volé mes bons de réduction. En criant, ce sont des cons comme ça qui me font rater la course au trésor de Cyril Ferraud, spécial bête somme. Dans le métro, les gens courent. Certains arrivent à se glisser de biais entre les portes qui se ferment. La RATP, sans le savoir, forme des ninjas. Quand j'ai vu Kill Bill, je me suis dit sympa, mais ça vaut pas la ligne 13. Même cette émission était éreintante. Intro, Tom Villa, interview de l'herbe, Sigris Pastureau, le journal Joe Culture, Morin. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas juste se poser, se demander aux uns aux autres comment ça va? Même si, bien sûr, on s'en fout de la réponse, mais ça ferait un beau moment de radio. L'auditeur d'Inter, cet individu centré sur l'humain, au point de fréquenter des forums citoyens intitulés « Pour un autre monde » avec en live La rue qui est à nous, serait touché. Mais non, on ne prend plus le temps de s'intéresser aux autres et du coup, on ne saura jamais pourquoi Daniel Morin fait cette tête. Tout va trop vite. Regardez Castaner, cet homme dépassé qui tente de garder bonne figure, telle Ludivine de la Rochère de la Manif pour tous, si, alors qu'elle est tapée Sona sur Waze, l'appli l'avait menée jusqu'à un sauna, mais gay, rempli d'hommes en sueur en train de chanter « On fait tourner les serviettes ». Castaner, la préfecture de police de Paris, Michael Harpon, il aurait pu patienter, tourner sa langue dans sa bouche cette fois. Il est arrivé qu'il fasse ça dans d'autres bouches.
Non.
Mais non, deux heures après l'attaque, il déclarait l'individu n'avait présenté aucun signe d'alerte. On a su ensuite que si, puisque le type entendait des voix et regardait sur son téléphone des vidéos de décapitation. Alors que si on tient vraiment à côtoyer l'horreur, les sélections de The Voice Kids sur l'appli TF1 sont largement suffisantes. Et regardez l'emballement médiatique vendredi. À 22h, c'était sûr, on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais. 8 ans qu'on le cherche partout, dans les endroits les plus déserts, comme le local du parti Les Patriotes de Florian Philippot, ou à l'intérieur de la cagnotte Litchi pour financer le dernier album d'Evangélie. Rien. Et là, parce que 4 Écossais à l'aéroport de Glasgow disent « on le tient », le journalisme français est parti en sucette. C'est la presse choupa choups. En 10 minutes, alors qu'il n'y avait pas une photo, pas un enquêteur français sur place, le conditionnel a été aboli. BFM a appelé le Becherel en leur disant « les gars, prenez le blanco, effacez tout, on laisse juste le présent de l'indicatif ». Ribéry a dit à sa femme « prépare les bagages, du coup, on rentre en France ». On s'est mis à dire « selon la police écossaise », comme si c'était une référence. Des mecs qui, depuis 80 ans, sont infoutus de dire si au fond de leur lac, il y a un monstre marin, ou s'il s'agit du ver solitaire de Kate Moss perdu en 2006 lors d'une baignade avec Pete Doherty. Parce que, pardon, mais la police écossaise, ils cherchent Dupont de Ligonnès, ils attrapent un type qui n'a pas la même taille, pas le même visage, pas le même âge, pas le même nombre de doigts, et là ils disent... C'est lui, hein. Moi, je vais regarder les cordiers jugés flics d'un autre œil parce que c'est très crédible à côté.
Non, mais tout est parti vendredi d'empreintes digitales similaires.
Ah oui, mais là aussi, finalement, 2 heures plus tard, elle ne l'était plus. Hein, la police écossaise, ils sont gratinés. Ils voient arriver Christiane Taubira, ils appellent Paris pour vous dire on a attrapé Scheim. Hein. Non, mais on ne se méfie jamais assez des Écossais. Ces gens dégénérés, dont le sport principal est de lancer des troncs d'arbres. Et à cause de qui, en 87, on s'est tapé Wet, Wet, Wet. Le groupe de pop a été récemment par 2-3 bagues. Tout est allé trop vite. Vendredi, j'éteins la télé. Dominique Griset danse en studio avec Jacques Pradel en hurlant « On a attrapé Ligonnès !» Samedi matin, même chaîne, un pauvre type livide dit « En fait, c'était pas lui !» avec dans son mug 3 Xanax en train de fondre. Alors qu'en fait, sinon, on pouvait attendre. Tout simplement, 8 ans qu'on lui court après, c'est plus pressé. Un vendredi, la presse disait « Tout ce temps-là, il habitait les Yvelines !» Mais réfléchissez, quitte à fuir toutes les polices du monde, on part plus à Acapulco que dans les Yvelines. Enfin, dans la Casa des Papel, la scène où le professeur dit « Tiens, je vais aller me planquer dans les Yvelines. Allez, j'appelle Stéphane Plaza pour un pavillon. » Cette scène n'existe pas. Hein, le trésor des Templiers, vous aurez beau creuser, vous ne le trouverez pas dans les Yvelines. Les Yvelines est un département dans lequel il ne se passe rien. Quand une cheminée tire un peu trop fort dans les Yvelines, on déclenche le plan hors sec. Tout va trop vite. Souvenez-vous, en 2015, l'AFP avait annoncé à tort la mort de Martin Bouygues. Info reprise partout. Les gens sur Twitter commençaient à écrire « RIP Martin, t'étais béton ». Enfin, il a fallu que l'autre appelle les rédacs pour dire « Je ne suis pas mort ». On lui répondait « Vous êtes certain ?» Il disait « Je crois, ce midi j'ai mangé du gratin dauphinois trop chaud, je me suis brûlé la langue ». Oui, tout va trop vite. Et à cause de nous, en partie, parce que c'est nous qui voulons vivre tout en direct, vendredi soir. On crevait de savoir à quoi ressemblait Dupont de Ligonnès. On nous disait qu'il avait fait plein de chirurgies. Forcément, c'était pas le bon. Hein. Non, mais moi, je me disais, c'est peut-être une belle blonde aujourd'hui, parce que j'ai cette tendance à très vite voir du glamour partout. Hein, quand je regarde Thalassa, j'ai l'impression que les truites ont le regard de Lorraine Bacall. Ma déception fut intense lorsque j'appris finalement que Dupont de Ligonnès était un septuagénaire d'origine portugaise. Tout va trop vite. Stop. Posons-nous un peu. Alors, comment ça va, Daniel Morin?
Merci, Tony.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Allez, l'interro qui concerne cette fois-ci ce qui se passe dans notre monde, qu'il soit culturel ou pas. Quel est le nouveau métier de l'ancienne star du foot, Didier Drogba? Avez-vous entendu parler?
Comédien, chanteur,
consultant?
Non. Est-ce que vous
coiffeur?
Est-ce que vous vous souvenez d'abord de Didier Drogba?
Oui, ouais, bien sûr.
Très bien.
Okay. Restaurateur?
Restaurateur, non.
Agent?
Pasteur, non plus. Agent
de politique?
Il n'est pas en politique, non.
Douanier?
Il est. un jour,
c'est artistique ou pas?
C'est.
D'accord, c'est non.
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 Agent immobilier?
Un truc super étonnant, donc. Hein.
Un truc pas du tout étonnant.
Boulanger,
entraîneur,
restaurateur.
Non, qu'est-ce qu'il peut faire?
Pardon, il est footballeur.
Retraité.
Rentier.
Nouveau footballeur.
Non.
De nouveau footballeur, non, ou entraîneur de foot dans un petit
club. C'est un rapport avec le foot.
D'accord.
Président de club.
Arbitre, commentateur ou consultant sur une chaîne, non?
Alors,
non,
président.
Sélectionneur.
Patron de chaîne. Présentateur. Animateur.
Merci.
Ah oui.
Je suis obligé de faire le mec prétentieux.
Oui,
animateur. Animateur télé.
Ah.
Il animera la prochaine soirée du Ballon d'Or. Vous êtes très branché sport, Vincent Delerme, foot en particulier. Mm-hmm. On vous a proposé d'animer ou de commenter ou d'être consultant.
Ah oui. Et j'ai fait une fois, c'était catastrophique. Ouais. Je me sentais bête. En fait, je trouvais que
vous avez accepté.
Oui, oui, c'était pour une antenne concurrente. Et puis, du coup, non, c'était une émission.
C'était à la radio?
Oui, à la radio.
D'accord.
Non, mais je trouve qu'il y a un peu trop la nécessité quand on fait pas ça au départ, de prouver qu'on connaît. Et donc, voilà, je m'enlisais dans des trucs qui n'allaient pas. Ça n'allait pas du tout.
Quoi?
Ouais. Non, mais je disais dans le film.
Il
y a Vincent Duluc.
Absolument.
Ouais.
Journaliste à l'équipe, auteur de nombreux livres, de belles plumes de l'équipe, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il écrit. mais en tout cas, vous allez à Clairefontaine avec lui.
Ouais, mais pour le coup, parce que je crois, pourquoi j'avais pas aimé faire ça aussi, je crois que j'adore les spécialistes aussi, les gens qui connaissent vraiment leur sujet, et en l'occurrence, Vincent, c'est vrai qu'il a une manière d'écrire que je trouve assez, voilà, ses textes, et d'ailleurs il écrit aussi des bouquins par ailleurs, il a vraiment un style, il a vraiment une plume.
Clairement.
Et puis je lui avais demandé au moment du film s'il avait pas, c'était la fin de saison, c'était peu avant la Coupe du Monde, s'il y avait pas un match sur lequel je pourrais aller avec lui, mais même un match pas très important, et puis il m'avait dit, le seul truc qui reste, c'est une conférence à Clairefontaine. Bon, j'ai dit, ok, super. Et du coup, c'était la première fois que j'y allais. Et c'était la dernière conférence de presse avant le départ pour la Russie. Il y avait plus grand monde, d'ailleurs.
Mais il n'y avait pas VAR.
Il n'y avait pas VAR, Areola.
Non, et là où on voit que le film est daté, c'est que vous filmez, il y a un plan de la Coupe du Monde, enfin une réplique de la Coupe du Monde, taille immense dans les jardins de Clairefontaine, mais il n'y a pas les deux étoiles.
Ah voilà. Il y a juste un petit drapeau dans le stade d'entraînement où il y a marqué, allez, ramenez-nous la deuxième étoile.
C'est VG Dream qui était là.
C'est ça. Si je vous parle de Once Upon a One More Time, je parle d'une comédie musicale avec quel est le sujet de cette comédie musicale? Once Upon a One More Time.
Daft Punk?
Non.
Il était une fois, encore une fois.
Ouais, c'est ça. Once Upon a One More Time.
C'est pas un truc absurde, Monty Python ou ce genre de choses?
C'est sûrement absurde, mais.
C'est un remake de quelque chose qu'on connaît?
Non.
C'est le sujet qui est absurde?
C'est. Non, enfin, ce qui est absurde, ce qui est fort, ce qui est une comédie musicale sur ce genre de répertoire.
C'est très à l'actualité.
One More Time. Mais non, mais One More Time.
Ah, Britney Spears.
Exactement.
Oh,
vous avez mis du temps, les garçons.
Il
faut une comédie.
Baby,
non, mais j'y peux rien. Le titre, c'est Once Upon a One More Time.
D'accord.
Comédie musicale sur Britney Spears. Ça vous tenterait, une comédie musicale? Je ne parle pas de le faire à la Britney Spears, mais vous avez déjà écrit des pièces de théâtre, évidemment. Enfin, une pièce de théâtre. Alors, je me souviens de Bagnolet, mais je ne me souviens plus du titre.
Le fait d'habiter Bagnolet.
Ouais, le fait d'habiter Bagnolet.
Lemory, qui était un spectacle aussi un peu théâtre.
Voilà. Mais l'idée d'une comédie musicale, c'est vraiment d'être dans du Jacques Demy, quoi. C'est-à-dire de chanter, de jouer.
Ouais, j'aimerais bien le faire pour quelqu'un, en fait, je pense.
Et vous aviez refusé de le faire pour Christophe Honoré, vous deviez jouer
de jouer, de composer.
De jouer, mais effectivement, ça s'apparente à de la comédie.
Bah, c'est ça, il devait jouer Lou Garrel dans les chansons d'amour.
C'était des chansons d'Alex Baupin, ça aurait été un peu particulier parce que moi, quand je me mets à chanter une chanson, ça ressemble tout de suite à mes chansons à moi, avec ma voix et tout. Donc, et puis voilà, mais c'était sympa que Christophe me propose. Ouais.
Un peu de musique, écoutez ça.
We will not let you get away with this.
Right here, right now, is where
we draw the line.
C'est Moby,
c'est Greta Thunberg.
Exactement.
Qui a été remixée.
Fatboy Slim.
Exactement. On va continuer d'écouter.
Ça rend bien.
Right here, right now.
Elle l'a fait en live.
Right here, right now.
right here. Ça se répète, right now, right here,
right now, right here. C'est fort.
Right now, bon, hein. Right here, right now.
Absolument bien vu, Fred Sigrist. Greta Thunberg.
Ah,
avec...
y a aussi Tanguy. Hein. Moi, je partage. Tanguy,
mais
il
qu'est-ce
l'a dit
qu'il est bon joueur.
Ouais, il l'a dit aussi.
Dès que je dis un pauvre mot, il tient quand même à me créditer. Ouais. Et ça, c'est Frédéric Sigrist. Ouais, c'est un être humain à part.
Moi, je serais jamais.
Pas beaucoup comme ça.
Il est dans le don.
Mais ouais, complètement.
Rien à voir avec Daniel Morin.
Que... Ah, ça, ça fait salaud.
Passons d'avant.
Attention, grosse actu média aujourd'hui, les amis. Ce soir, à partir de 19h, ne manquez pas sur CNews le grand retour du polémiste préféré des Français de souche. Ne manquez pas le retour de... Éric Zemmour ! Et ça y est, le grand Éric is back ! Et il a des choses à dire. Du lundi au jeudi, pendant une heure, CNews donne la parole à un homme libre, condamné pour provocation à la haine raciale, mais libre de dire tout ce qui lui passe par la tête sur une chaîne info. Ah, ça, c'est bien. Faut que tout le monde puisse s'exprimer. Au moins, avec Éric Zemmour, on va en avoir pour nos sous. Avec Éric Z, on est rarement déçus. Mais ils ont l'art du recrutement sur CNews. Hein. Ne le répétez pas encore. Mais j'ai entendu dire que pour une chronique voyage, chronique qui va s'appeler Escapade secrète, CNews aura embauché Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, pour être franc avec vous, j'ai pas vérifié l'info. Mais bon, aujourd'hui, vu ce qu'on a vu ce week-end... Vérifier l'info. On s'en fout un petit peu. Hein. Pour en venir avec le franc-parler d'Éric Zemmour, je trouve que ça fait du bien. Ras-le-bol des discours formatés, des prises de parole consensuelles, de la pesanteur, du politiquement correct. Même dans le sport, le tiède a pris le dessus. Ce soir, les commentaires pour le match France-Turquie, ça va être d'un soporifique. Ça va être chiant à mourir. Oh, nom de Dieu, ce que je peux regretter la belle époque. L'époque Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Thierry s'agouaille légèrement cocardière, ses opinions tranchées. Et Jean-Michel, le modérateur diplomatico-géopolitique. Quel duo. Ah, il me manque tous les deux. Hein. Pour un match comme celui de ce soir, ils auraient été au top. Eh, monsieur, bonsoir, bienvenue au Stade de France. Bonsoir Jean-Michel. Ouh, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Un match décisif face à la Turquie, mon petit Jean-Mimi. Oui, absolument Thierry, un match qui de plus va se jouer dans un contexte géopolitique bien particulier, avec la progression des forces turques en territoire kurde. Ah, particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Turcs, en plus d'être moches et d'être des voleurs, c'est des sauvages. Ouh, Thierry, vos propos sont limite xénophobes. Ah, mais pas du tout, mon petit Jean-Mimi. Je dis juste qu'on peut pas avoir confiance en eux. Tu les invites à manger chez toi, ils piquent la vaisselle. Tu leur tournes le dos, ils t'envahissent. Ouh, Thierry, vos raccourcis sont très stigmatisants pour nos amis turcs. Ah, c'est peut-être vos amis, mais c'est certainement pas les miens. Et j'espère que les hommes de Didier Deschamps vont bien penser à fermer à clé le vestiaire, sinon, à tous les coups, ils vont se faire piquer leur portefeuille. Thierry, vous pouvez pas tenir de tels propos. On est dans un racisme de bas étage concernant un pays d'une immense culture. Ah, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore le kebab. Et si culturellement le turc est évolué, vous m'enlèverez pas de l'esprit que le turc c'est comme le roumain, un voleur de poules. Sauf que contrairement au roumain, il mange pas les plumes. C'est tout. Thierry, modérez vos propos. Les Turcs sont nos voisins. La Turquie est aux portes de l'Europe. Eh ben, comme disait Neuf-Neuf des trois petits cochons, c'est pas parce qu'on frappe à la porte qu'on est obligé d'ouvrir. Là, il y avait du point de vue, de l'échange, du débat. J'espère, en tout cas, bah oui, que ce sera un beau match. Hein. Alors, petit scoop, ouais. J'ai entendu dire que l'arbitre serait Xavier Dupont. De... À vérifier quand même. Hein. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Et je sais, dans un cinéma, ton visage, tes yeux qui s'inondent, mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
Nouvel album de Vincent Delerme, je ne sais pas si c'est tout le monde, sur lequel il y a également.
Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce, et ressentir une émotion.
L'album s'appelle Panorama et cette chanson est également sur l'album, titre de l'album.
Et j'aime les tours.
Je sais pas, avec le recul, j'aurais voulu faire un truc un peu plus stylé.
La MJC.
Je me suis retrouvée à la MJC de ma ville.
Le mercredi.
Le hip-hop, en fait, ça reste une.
Est-ce que sur la tournée, vous avez l'obligation de faire des reprises, enfin de chanter vos chansons passées et que tout le monde attend?
On écoute du chant grégorien, elle parle à
moi. Ouais, oui et non, parce que en fait, c'est vrai que d'avoir fait aussi des spectacles un peu différents et tout, c'est comme ça.
m'a donné un peu une permission aussi des fois de faire un truc où les, voilà, de pas faire exactement ce que les gens attendent, mais en même temps j'ai pas à cœur de snober ces chansons là qui m'ont porté chance au début, donc je les fais très régulièrement en fait.
Il pourrait y avoir Fanny Ardant, il pourrait y avoir
On est parti avant la fin du monologue shakespearien,
ou encore
de 1973.
Ah bah elles sont de plus en plus vieilles surtout les filles.
Eh oui, c'est l'intérêt de la chanson en fait, parce que par contre le point de départ, tout ce qu'elles ont vécu, ce par quoi elles sont passées, ouais, ça reste identique, il faut juste pas chanter la fin du refrain.
Si vous aviez un mot pour qualifier Vincent Delerme, Leïla.
Oh là là, pour
un
moi
mot,
c'est
un qualificatif. C'est
impossible, un mot pour moi c'est
impossible.
Non, il y a une forme, il y a tendresse pour moi. Ouais.
Daniel Morin.
Moi, j'adore sa spontanéité. On l'a vu tout à l'heure pendant
mot,
le live.
T'as un mot.
Non, non, mais je dis ce que je veux.
Et spontané, oui.
Spontané, complètement.
C'est
top.
Tom.
Poétique.
Ah, sympa. Fred Siris.
Facétieux.
Et Tanguy Passiro.
Moi, je voulais juste dire que mardi, je serai à La Cigale pour vous voir. Donc, j'ai cru comprendre que vous étiez en petite forme. Donc, remettez-vous mon petit bonhomme, parce que vous avez une semaine pour me faire plaisir.
Je vais tout faire.
Et qu'est-ce que vous aimeriez entendre, justement, de la bouche de quelqu'un qui sort d'un de vos concerts, par exemple, le premier à La Cigale, mardi prochain?
Ah bah, il y a cette phrase de tonton Alain Souchon dans le film, quand, après les témoignages, il dit c'est touchant tout ça. Donc c'est touchant tout ça, c'est joli.
Le côté ouais, c'est touchant tout ça, mais ça marque et ça marche toujours quand on entend une chanson de Vincent Delerme ou qu'on voit le film. Encore une fois, faut pas l'oublier ce film. Il y a qu'une salle qui le projette que le dimanche. Faut pas passer à côté. C'est jusqu'en décembre.
Oh oui, mais du coup, comme enfin, on espère que ça va durer un peu et c'est ça l'idée aussi que le film reste soit un peu dans la durée. Pardon, j'ai eu du mal à faire cette phrase.
C'est la séance de 11h, hein.
Oui, c'est la messe ou ça.
Ouais, c'est ça. C'est
je sais, dans un cinéma, ton visage, tes yeux qui s'inondent, mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
Est-ce qu'il va y avoir une bande originale du un disque, la BO du film?
Oui, parce qu'il y a pas mal de mélodies, comme, bah oui, comme c'était aussi, il a mis du temps à se faire, du coup il a profité du travail que je faisais avec Clément Ducol et Maxime Le Guil. À certains moments, du fait d'être en tournée avec Rémi Galichet sur la dernière tournée, il me proposait des mélodies et tout ça s'est inscrit au fur et à mesure dans le film, et c'est vrai que c'est des mélodies différentes du disque, donc voilà.
Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux?
J'adore ça.
Mais dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, monsieur, êtes-vous heureux? N'ayez pas peur, on va pas vous faire de mal.
Film coproduit par Julie Gaillet, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure.
Julie Gaillet, Vincent Frérebeau. Ouais.
Voilà, c'est vrai qu'elle aide à ce que le cinéma puisse aussi exister. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, désolé déjà pour tous les haters de France Inter qui ce matin, entre les discussions entre fils de prof, les chansons de Vincent Delerme, les réflexions sur le cinéma de Truffaut et Varda... Waouh, il y avait du niveau, ça fait limite mal à la tête. Hein. Moi, j'en peux plus, perso, je crois que je vais passer l'après-midi sur RMC, ça va me détendre. Désolé pour Vincent Delerme, qui a l'habitude des interviews mal préparées sur Skyrock ou Courtoisie, et qui ce matin s'est retrouvé face à Nagui, qui a même entendu le coupé à la fin du film. Eh ouais, France Inter, on a une réputation à défendre. Désolé enfin pour Nagui, qui ce matin a connu tous les vents de la contrariété, les blagues racistes d'un collaborateur fasciste, moi, la violence physique d'un artiste cogneur, Vincent Delerme, la technologie qui plante avec des techniciens distraits, Hélène, les feuilles perdues avec une réalisatrice bientôt virée, Hélène, les lives qui dérapent d'un artiste encore sûrement bourré, Vincent Delerme. Bon ben, pour la réputation à défendre, je crois que c'est foutu les copains. Bon.
Merci Vincent, soignez-vous, c'est vrai, préparez, régalez-vous à La Cigale à partir de mardi prochain. L'album sort ce vendredi, il s'appelle Panorama. Merci mille fois.
Ah, merci
malgré votre santé d'avoir honoré cette invitation. Demain, c'est PEF, Pierre-François Martin Laval, pour un très beau Faïm, histoire vraie d'ailleurs, devenu film avec Isabelle Nanty et Gérard Depardieu, entre autres. Tout de suite, des carnets de campagne. Pardon pour ce retard. Philippe Bertrand.